Donc, Hidakusha, c'est le nom japonais qu'on donne aux victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Sa traduction littérale en français, ce serait « victime de la bombe ». L'existence civile des Hibakusha a longtemps été niée et leur dénombrement bâclé par le gouvernement japonais alors qu'ils se trouvaient sous tutelle américaine. Cela autant en raison des pressions effectuées par les États-Unis, qui préféraient évidemment taire l'impact des bombardements dont ils avaient été les responsables, que par les Japonais, pour qui les Hibakusha deviennent une sorte de véritable monstre moraux et physique, alors mis au ban de la société. Ils sont donc à la fois effrayants en raison de leur apparence, mais aussi par leur potentiel de dangerosité, étant donné qu'à l'époque, on connaîtrait peu les répercussions à long terme des radiations élevées sur le corps ou sur l'environnement. Leur présence inquiète donc, mais elle soulève aussi l'animosité, puisqu'en tant que victime de l'agression nucléaire qui a mené à la révolution du Japon, ils sont la trace visible d'une honte collective, celle causée par la défaite nationale. Ultimement, ils sont, à l'échelle mondiale, le signe résiduel d'une autre monstruosité, hein, celle de l'homme et de sa technique, et du progrès scientifique lorsqu'il est subordonné aux intérêts idéologiques des politiques. Pourtant, alors qu'on leur dénie une existence légale, des droits et une compensation, ces corps déformés ou abîmés par les radiations, devant lesquels le discours social et l'expertise médicale sont eux-mêmes impuissants, demeurent quant à eux bien réels. Les Hibakusha dans l'imaginaire collectif représentent alors ce qui transparaît malgré la volonté d'oublier toute une population. Ils sont la marque manifeste d'un fléau qui, d'abord spectaculaire, a continué d'étendre ses ramifications dans les sphères de l'invisible, au niveau subatomique, sur plusieurs générations. Il cristallise alors une angoisse qui s'étend à toute la question nucléaire. La radioactivité, nous dit Jean-Jacques Delfour, nous atteint sans cesse et cependant, elle n'est visible nulle part ou presque. Elle échappe à l'emprise des êtres humains. Cette dualité paradoxale est un fait. Réalité massive, permanente, répandue en tout lieu, omnipotente et, en même temps, discrétion, quasi-absence, secret, tabou. Hibakusha est la trace donc apparente d'un interdit du discours, d'un indicible, mais aussi d'un mal dont la source est inobservable à l'œil nu, donc d'un invisible. Bien qu'on connaisse tous l'existence de l'événement historique de 1945, de ce crime, nous dit Jean-Jacques Delfour, peu d'images, peu de témoignages, aucun jugement. L'assassinat atomique entre dans l'histoire sous un voile majestueux d'impunité totale. Fin de citation. Une absence de documentation sérieuse a longtemps laissé à l'imagination champ libre, et si chacun connaît plus ou moins l'existence de ses victimes dès les explosions de Fat Man et de Little Boy, il n'en reste pas moins que ce sont rarement les survivants eux-mêmes, d'abord, auxquels on confie la parole. Le monstre reste soumis au mutisme, car on aurait bien peur, à vrai dire, d'entendre sa voix, qui risque, on s'en doute, de ressembler d'un peu trop près à la nôtre. L'ouvrage « Notes d'Hiroshima » de l'auteur nobelisé Kenzaburo Oe atteste d'un souci manifeste de transmettre ses témoignages éludés. 20 ans après Hiroshima et Nagasaki, Tchernobyl aura aussi ses propres Hibakusha, dont Svetlana Alexievitch retranscrira le discours dans La Supplication, en 1998. Les deux ouvrages empruntent la forme du reportage et posent la question de l'écriture journalistique comme forme de création en tant qu'elle est un processus de montage et d'assemblage des voix qu'elle canalise, ce qui explique peut-être en partie la nobilisation de leur auteur, ou en tout cas le succès critique de ces ouvrages. Ils posent un geste créatif, singulier, et se laissent en même temps traverser d'un dire collectif qui, depuis longtemps, cherchait ses voies d'expression. On y parvient peut-être en partie à s'extirper d'un régime scopique de démonstration, de la monstration et de la monstruosité pour entrer plutôt dans une logique qui serait énonciative. Cela dit, le texte de Alexievitch est porté par une volonté de contribuer à la mise en mots du drame en même temps qu'il met fortement l'accent sur l'incapacité de rendre intelligible une telle expérience. Cette idée selon laquelle le langage échoue à circonscrire un tel événement traverse tout l'ouvrage et crée inévitablement une tension. En effet, comment comprendre le statut d'un texte qui sans cesse remet en cause la validité de ses propres fondements et comment concevoir la manière dont est pensée cette tentative qui dénonce à l'avance son échec à venir? Certains des intervenants interrogés par Alexievitch se contentent de parler de leur propre impuissance à effectuer une ressaisie de l'événement par la parole. Ils diront « Je ne suis pas écrivain et je ne pourrais pas le décrire » ou « Nous ne savons pas tirer le sens de cette horreur ». D'autres étendent cette incapacité à toute forme d'énonciation subséquente, comme cet homme qui affirme que des dizaines de livres ont été écrits, de gros pavés, qu'il y a eu de nombreux commentaires, mais que cet événement déborde du champ de l'analyse. Il doute alors de la capacité du langage à cerner l'événement. En d'autres cas qui sont plus drastiques, certains tentent de manière rétroactive ce constat d'échec à toute production littéraire ayant même précédé la catastrophe. Pour plusieurs, Pushkin, Tolstoï ou Tchekhov ne veulent plus rien dire dans un monde post-Tchernobyl. Il apparaît clair que si Tchernobyl crée une continuité radioactive pour des millénaires, Celle-ci, dit Jean-Jacques Delfour, s'accompagne aussi d'une faible continuité mémorielle due au défaut de représentation. Parce qu'il s'agit d'un accident, on peine davantage à faire entrer cette catastrophe dans une logique justificative. La centrale nucléaire, c'est une manœuvre sémiologique. Elle fait écran aux essais nucléaires et à leur pollution, mais aussi universelle, une pollution qui est aussi universelle que tu. Et c'est pourquoi l'entrée de la catastrophe de Tchernobyl dans le discours est d'autant plus laborieuse qu'il n'y a pas d'appareil rhétorique qui soit en mesure de la prendre en charge efficacement. L'incident causé par des problèmes de maintenance, ainsi que ses répercussions drastiques, sont entre autres le fait d'un silence et d'une apathie étatique, d'un gouvernement qui n'a pas su prendre les mesures appropriées au moment même. Les témoins qui se livrent à Alexievitch, d'ailleurs, le sentent bien. Je cite, l'un qui dit « J'ai lu des ouvrages sur Hiroshima et Nagasaki, j'ai vu des commentaires, c'est horrible mais compréhensible. Une guerre atomique, le rayon d'explosion, tout cela, je peux bien me le représenter. Mais ce qui s'est passé ici n'entre pas dans ma conscience. » Comme quoi le nucléaire impose le silence parce que les mots pour le dire n'ont pas encore été forgés. Curieux alors qu'autant d'auteurs, cinéastes, bédéistes s'essaient à mettre en mots Tchernobyl, proposent, citons encore Delfour, une mise en image de la nucléarité du monde contemporain dont ils contribuent à la fois à diffuser la nouvelle et à amortir le choc. À moins qu'on y retrouve le réflexe de vouloir pallier à l'inintelligibilité du réel par le recours à la fiction. Beaucoup de ces textes se révèlent parfois même ennuyants, pour différentes raisons, la principale étant sans doute que, bien qu'on y déniche certes des monstres, certes le nucléaire, on n'y détecte pas à proprement parler de formalisation de ces figures, c'est-à-dire qu'aucune poétique particulière, ne répond ou ne s'associe à ce surgissement. Or, qu'on parle d'accident ou de guerre nucléaire, il va sans dire que la technologie atomique a créé un nouveau monstre, qui est le monstre radioactif. Et donc, après une aussi longue contextualisation, il va peut-être sembler étrange d'annoncer que, bon, comme mon titre le laisse penser, je ne traiterai plus directement d'Alexievitch et de son texte. Mais cette introduction, m'apparaissait comme un ancrage nécessaire aux réflexions que je vais proposer de livrer dans une analyse comparatiste de deux romans, Les Inattendus, de l'auteur hongroise Eva Christina Mitsenti, et d'Incident, Nouvelle de jour, de l'auteur allemande Christa Wolf. Une analyse comparée de ces deux textes semble pertinente dans la mesure où on y trouve un traitement de la figure du monstre, fondé sur des préoccupations similaires, mais toutefois résolues par des stratégies de formalisation, quant à elles, singulières. Pour Wolf et Mitsenti, le monstre radioactif est une créature marginale, hors discours. Il faudra donc exposer les stratégies mises en œuvre par ces deux auteurs afin de formaliser une monstruosité propre à Tchernobyl en analysant pour cela le travail de déconstruction syntaxique et d'altérisation de la langue pour démontrer qu'il est le résultat d'une poétique de la radioactivité. Par poétique de la radioactivité, j'entends simplement, d'abord, une stratégie de mise en forme esthétique de la radioactivité qui dépasserait la simple thématisation. Le terme de radioactivité paraît préférable ici à celui de nucléaire, le premier semblant mieux refléter comment ce sont les effets des radiations qui font l'objet d'une poétisation, et non ici la bombe elle-même, qui, quant à elle, semble se mériter un imaginaire concomitant mais propre. Le terme de radioactivité permet de laisser entendre la question microscopique et anatomique, posée par les manipulations humaines de l'atome, indique bien qu'il importe de penser cet imaginaire en termes d'effets sur le corps, souvent monstrueux, qu'il soit textuel ou biologique. En se basant sur ces deux ouvrages, je tenterai donc de cerner ce qui est davantage une intuition préliminaire qu'une tendance générale. Il s'agit de deux textes, là, après tout. Une hypothèse localisée, donc, qu'il faudrait soumettre, ce que je me proposerais éventuellement de faire, à de plus amples évaluations. Donc, je vais commencer par résumer rapidement les deux romans. Les Inattendus est un roman narré par Clara, une jeune femme cloîtrée dans le village hongrois d'Oferer. Elle prend un emploi à l'hôpital accueillant les enfants victimes de Tchernobyl afin de quitter le foyer familial et s'attache alors au petit monstre, donc selon ses mots, dont elle s'occupe. Incident, quant à lui, raconte la journée d'une femme en avril 86, donc au moment de l'explosion de la centrale. Donc, ces 24 heures sont marquées par deux événements marquants, cette explosion et l'opération chirurgicale du frère de la narratrice. L'opération est épineuse, mais nécessaire, puisqu'une tumeur au cerveau risque de le rendre gravement handicapé si elle n'est pas retirée. Il faut d'ailleurs mentionner qu'une traduction davantage fidèle au sens du titre original du roman, intitulé, on pardonne mon allemand, Storfall, serait plutôt accidentelle, donc un mot qui résonne davantage avec celui qu'a choisi Mitsenti pour son titre, Les Inattendus. Ensemble, ils évoquent l'idée d'un événement qui se dérobe aux prévisions, un déraillement de l'ordre des choses. Mais alors, on va se demander ensemble, qu'est-ce qui déraille chez Wolf comme chez Mitsenti? Alors, d'emblée, le texte de Mincenzi se place sous le signe de la liminalité, ne serait-ce que d'un point de vue géographique. La petite ville d'Ophir, où l'auteur plante l'action, se situe sur l'un des rivages de la rivière Ipoly, qui sépare le territoire hongrois du territoire slovaque. Cette division, instaurée dès le départ du texte, se présente avant tout comme une distinction d'ordre linguistique. Lorsque s'ouvre le roman, on peut lire que, je cite, « Ipoly est la frontière, à sa gauche, à sa droite, deux églises, en tout point identiques. Nos sermons sont en hongrois et les leurs en langue slave. » La frontière est donc produite par le cours d'eau, mais aussi par la langue. Le fait que celle-ci soit changeante, aqueuse, ne semble pas étranger à l'idée du caractère fluctuant des limites, surtout dans un contexte est-européen, territoire dont la carte a si souvent été redessinée. Or, c'est dans cette rivière qu'on jette les enfants difformes, qui sont abandonnés à Ophir, dans l'hôpital. Ils sont alors relégués à une marge représentée par la rivière, placée donc entre deux dialectes. Clara, la narratrice, spécifie elle-même que la rivière est une crevasse dans la vase, bourrelet léger, se devinent les os des nouveau-nés sacrifiés. Ces enfants monstres semblent alors tomber dans la faille de la langue, dans cet interstice fluide entre deux espaces langagiers, et donc dans une espèce d'indicible. Certaines citations rapprochent aussi les enfants du fleuve en créant des accointances sémantiques, comme c'est le cas lors d'un épisode où Adam, l'un des petits monstres, subit une crise de larmes. La narratrice dit alors que son buste d'usage inerte est secoué de vagues et que ses difformités s'estompent sous le ressac. C'est sans doute pour cette raison, entre autres, qu'une correspondance se crée entre les lits grillagés de l'hôpital qu'occupent les monstres et le lit de la rivière, les deux devenant le berceau d'un secret horrifiant, celui des corps déformés par l'accident nucléaire. Parce que le rêve est aussi un espace interstitiel, les monstres s'immiscent d'abord par son biais dans le monde de la narratrice. Dans ses cauchemars récurrents, les enfants monstres boivent un liquide amer dont l'odeur, dit-elle, soude sa langue à son palais, faisant craqueler ses lèvres, rendant difficile la prononciation. Et dans ses interludes oniriques, elle apparaît aussi comme monstrueuse, puisque ses jambes fusionnent l'une à l'autre. Cette double soudure l'immobilise et la réduit au silence, et inaugure un lien symbolique fort du texte, donc celui unissant l'immobilité et le silence sous le signe du monstrueux. C'est donc de la brèche que sont issus les enfants monstrueux, qu'il s'agisse de la faille du quatrième réacteur ou de celle que trace l'Ipoly, séparant le normal de l'anormal, la veille du sommeil, la mort de la vie et surtout, de façon encore plus marquée, le silence de la parole. En effet, l'apparition des enfants monstres au sein du texte s'accompagne régulièrement d'un lexique proche du silence, du murmure, du monologue, auquel s'accolent souvent les thèmes de la prostration et l'immobilité. Il en est ainsi lors du premier quart de travail de la narratrice, où le vocabulaire employé est fortement connoté en ce sens. C'est la citation qu'on voit ici à l'écran. Leur soliloque produisait un rugissement paisible. Il gisait droit, immobile, figé dans la mollesse par les maladies neurologiques, enfermés dans leur lit, enclos dans un monologue intérieur. J'ai pris une chaise attendu que quelqu'un m'ordonne de changer leur couche. Immobile, figé dans la contemplation des arbres, dehors était une image, parfaitement immobile, nous gisions, parfaitement immobile. Elle dira aussi plus loin que la beauté des monstres est atone ou qu'ils sont indiciblement beaux. Mais le monstrueux n'est pas seulement ce qui échappe à la langue, c'est aussi ce qui la fait dérailler dans le texte. Les seuils s'estompant dans la réalité à laquelle est confrontée Clara, il semble qu'il faille rétablir par le discours. C'est alors la ponctuation qui assume ce rôle de restauration, en même temps qu'il l'empêche de devenir tout à fait. En effet, les réflexions de la narratrice oscillent entre un effort de distanciation et une tentative de rapprochement provoquée ou rendue par des faits linguistiques. Au champ lexical du silence ou du monologue s'ajoute par conséquent le découpage des phrases en plusieurs segments, séparés par des points qui rendent la phrase asyntaxique. Hein, l'exemple au tableau le montre assez bien. Elle s'en trouve ainsi désarticulée à la manière des corps étranges des enfants, brisés aux mêmes endroits que les difformités du nouveau-né, nous dit le texte. Inversement, cette abondance de signes de ponctuation crée une surdétermination syntaxique de la phrase. Elle se trouve désormais pourvue d'un nombre impressionnant de jointures, jointures dont les monstres sont justement privés, puisque leurs membres sont soudés. Plusieurs épisodes du texte renforcent cette intuition. Regardant l'une des jeunes filles discuter au téléphone en langue étrangère, Clara se répète « Mais non, je ne suis pas comme elle ». L'envahissement de ces affirmations par une abondance de signes de ponctuation superflus marque un arrêt, superflu du point de vue syntaxique. Une imperméabilité des mots les uns aux autres. Ils semblent prévenir une contamination. La narratrice les emploie d'abord pour bien rétablir artificiellement la frontière qui la sépare des monstres et qu'elle voit disparaître petit à petit à leur contact. Chaque point apparaissant dans la phrase l'en distingue, donc, crée des barrages étanches ou des interstices syntaxiques où Clara espère voir les monstres s'engouffrer. La barrière entre elle et les monstres et les non-monstres, disons, est alors érigée par l'aspect assuré de la parole, son étanchéité et le fait d'une stratégie syntaxique de découpage. Mais la mise en distance change progressivement d'objet, puisque si Clara cherche d'abord à se différencier des monstres, elle finit plutôt par se distancier d'elle-même, de sa propre histoire. À la fin du roman, par exemple, elle se met à parler d'elle à la troisième personne, devient alors cette elle à qui elle ne veut d'abord pas ressembler. Le fait de constater que ces monstres ne sont pas aussi muets qu'ils le paraissent, mais parlent plutôt une langue étrangère, provoque son désarroi. Je cite, « Ils gémissent, ils râlent, ils sourient. Certains annonnent. Leur langage est indistinct. À l'hôpital, j'étudie aussi les langues étrangères. » Certes, les monstres sont statiques, voire paralysés pour certains, mais ils possèdent tout de même une certaine forme de mobilité dont les Hongrois eux-mêmes sont dépourvus, celle qui génère la liberté de naviguer à travers le discours. En ce sens, ils déambulent davantage que la communauté d'Ophéar, qui ne sait parler que dans ses propres mots et se cloîtrer dans un silence, une autarcie linguistique. Dans son travail de distinction, donc, l'abus de ponctuation vient produire à contrario un bégaiement de la phrase, dont les mots, une fois séparés, ne signifient plus en tant qu'ensemble. Dès lors, le départage initié par la narratrice désinvestit en quelque sorte la phrase de son sens et la rapproche des monstres qui sont censés ne pas parler. La description du langage des enfants, définie comme discours saccadé, haché, craché, pourrait d'ailleurs s'appliquer au discours de la narratrice. Cette ambivalence du rôle occupé par le déraillement syntaxique est d'ailleurs renforcée par l'emploi de structures en miroir au sein de certains passages, comme celui-là déjà cité, donc, dans lesquels les phrases sont reprises presque telles quelles, à l'exception d'un changement de pronom, ce qui rapproche alors les sujets des deux phrases. On voit bien par exemple comment les retours successifs du mot « immobile » génèrent cette proximité nouvelle. Le terme, présenté alternativement au pluriel et au singulier, crée une porosité de la frontière entre l'individu, donc la narratrice, et la collectivité, soit les monstres, qui sont séparés par la ponctuation mais réunis par le retour du même adjectif. Quoique le monstre soit aussi taciturne que l'hippolyte, il possède donc en revanche le cri, manifestation informe du langage, modalité du dire qui se trouve encore à l'extérieur de la parole. Tchernobyl, en ce sens, ne peut être que crié, et il est tout à fait cohérent que ses victimes ne puissent s'exprimer que dans l'ordre de l'inarticulé. Ce sont elles, finalement, qui parviennent le mieux à parler de l'incident, celui-ci n'étant pas en mesure d'entrer dans l'ordre du langage. On ne s'étonne pas alors de la méfiance manifestée par la narratrice envers la langue, qui devient, selon elle, une source de l'incapacité à dire. Dans ce renversement, le monstre, parce qu'il hurle ou gémit, n'est plus le signe d'un manque, mais plutôt d'une abstention. En premier sens, il n'y a que le monstre et le poète qui peuvent être rachetés, ce qui rapproche leurs deux régimes d'énonciation. Elle aura des mots très durs pour ceux qui n'appartiennent pas à l'une ou l'autre de ces catégories. Elle dit donc « Il y a une chose que je déteste chez nous, c'est notre langue, notre langage. L'homme est misérable devant la force de ce qu'il prononce. Le privilège de son chien, c'est qu'il ne dit mot. Sa supériorité naît de son mutisme. L'humain parle, c'est sa faiblesse. Son chien agit. Nous sommes handicapés par notre langage. Nous sommes des handicapés de la langue. » Si celui qui parle est alors dénoncé comme étant le véritable handicapé, c'est sans doute parce que son discours, béquille inadéquate, fait défaut lorsque se mesure aux terrains inégaux, désaffectés et corrompus de Tchernobyl. Face à l'impossible à dire, confronté au manque de mots justes, aux écueils de la langue et à son caractère lacunaire, Clara est donc catégorique pour sortir victorieux de ce combat mené. Contre l'absence de sens, il ne faut surtout pas avoir le dernier mot. Donc, dans Incident, donc, la narratrice de Wolf fait preuve d'un même type de méfiance envers la langue et ses revers. S'il n'est jamais question du silence des chiens, elle dit en revanche qu'elle s'est déjà laissée aller à imaginer que les dauphins avaient pu un jour, dans la nuit des temps, refuser après mûre réflexion le don de la parole, qui leur a peut-être été aussi offert. Elle sous-entend par la suite que ce refus constitue un choix plus judicieux que celui pour lequel aurait opté l'homme. Dans cette petite plaquette, le monstrueux est présent de manière beaucoup moins explicite que chez Mitsenti. C'est un mot qui revient peut-être, je pense, trois fois dans le texte au total. Pourtant, il est bien là. Le corps du frère en est le premier dépositaire, lui qui se retrouve découpé sur la table d'opération, livré aux mains anonymes de quelques Frankenstein modernes. Le corps cobaye, à la fois mis en souffrance et sauvé par la science, devient l'origine d'une réflexion sur l'anomalie génétique et ses fondements. Elle se décline par exemple du côté de la défaillance cellulaire ou encore dérive vers des considérations sur l'origine des espèces, ce qui insinue que l'homme aurait évolué vers sa propre monstruosité. Pour Wolf, la monstruosité éthique et morale de l'Homo sapiens progresserait trop rapidement pour que son apparence physique puisse la rattraper et en devenir la trace corporelle manifeste. Dans cette optique, Tchernobyl serait évidemment la punition que se mériteraient les hommes d'avoir voulu trop savoir. En ce sens, le véritable monstre du texte est incarné par la science et les scientifiques. Ça, c'est explicite de la part de l'auteur. Les corps affectés par les radiations n'en incarnent que la trace visible. Ils sont présentés comme le symbole, le symptôme d'un châtiment divin, visant à punir l'orgueil de l'homme, notamment par le concours d'un grand nombre de références à l'imaginaire babélien. Cette provocation n'est pas tout innocente, puisqu'elle semble lier ensemble la problématique de l'ambition et de l'avancée technique effrénée à la question que pose la langue, ou plutôt l'absence d'une seule langue. La technique devient donc chez Wolf un langage qu'on espère universel et que pourtant une simple poignée d'élus est en mesure de comprendre. Ainsi, comme chez Milsenti, le langage du monstre est toujours un langage étranger, puisque les physiciens continuent de nous parler dans leur langue incompréhensible pour nous, dit-elle, nous qui nous demandons ce que sont 15 000 millirèmes de Fallout à l'heure. Lisant des pamphlets sur la compréhension d'Hiroshima et sa commémoration, la narratrice n'est guère étonnée qu'il s'agisse de textes ayant pour sujet la confusion des langues. Et parcourant à nouveau le texte de la Genèse, elle dira qu'elle a l'impression de lire ce très vieux texte pour la première fois, car, rappelle-t-elle, la tour de Babel aurait été construite par les hommes dans l'espoir de toucher au ciel. Or, difficile de ne pas penser que c'est précisément ce que font les scientifiques de Tchernobyl en contaminant les cieux de radiations invisibles. À ce nouveau récit incompréhensible de la catastrophe répond donc une compréhension différente des textes d'autrefois, mais aussi une nouvelle incompréhensibilité du langage d'avant. On retrouve les considérations que met en lumière Alexievitch. Wolf propose de constantes réflexions sur l'impossibilité de narrer la catastrophe, mais surtout sur celle de désormais dire quoi que ce soit sans y référer. Plusieurs impossibilités se superposent alors, notamment celle du retour vers un état où Tchernobyl ne connotait pas le vocabulaire, mais aussi celle d'une parole qui échappe à un effet différé de rétroaction. En soutenant entre autres, qu'elle parle d'un jour à propos duquel elle ne peut écrire au présent, Wolf signifie qu'il ne subsiste aucune possibilité de parler d'un autre lieu que de celui qui succède à la catastrophe, que celle-ci a désormais irrémédiablement envahi tous les espaces de la langue. Et si les rayons radioactifs contaminent les sols, c'est donc dans le langage qu'ils se propagent avant tout, créant les plus importants dégâts. Le texte est par exemple ponctué de références au mot « nuage » et à l'incapacité pour qui que ce soit de l'employer sans qu'on y entende dorénavant une allusion au nuage radioactif. Pour Wolf, je cite, « Le fait que nous appelions cela « nuage » est simplement un signe de l'incapacité de notre langue à suivre le rythme des progrès de la science. » Elle dira par exemple qu'elle serait curieuse de savoir quel poète osera le premier chanter à nouveau un nuage blanc, car un nuage invisible d'une toute autre substance s'était chargé d'attirer sur lui nos sentiments, reléguant le nuage blanc de la poésie aux archives. À l'époque de sa grand-mère, ajoute-t-elle encore, sur le mot « nuage », on ne pouvait pas imaginer autre chose que de la vapeur d'eau condensée. Les nuages ayant donc cessé d'être visibles et le danger avec lui, le corps du texte, en même temps que celui des victimes, est désormais le seul endroit où la trace de ce nuage devient apparente. Cette obsession pour un danger imperceptible, en dehors des dommages collatéraux qu'il provoque, s'étend à toutes les sphères du texte et se fonde entre autres sur de nombreux parallèles que la narratrice établit entre l'accident nucléaire et l'opération de son frère. Il s'articule majoritairement autour d'une grande quantité de réflexions sur l'œil et le regard, le visible et l'impalpable. En interrogeant sa propre capacité de monstration, le texte relève par là aussi d'un imaginaire du monstre. Ici, ce dernier n'est plus visible puisqu'il est désormais camouflé dans les strates subatomiques du vivant. C'est donc le cas aussi de la tumeur du frère, dont l'idée est insupportable pour la narratrice, et ce principalement parce qu'elle est impossible à discerner à l'œil nu et qu'il faut avoir recours au regard machinique pour la rendre perceptible. Le frère risque par ailleurs de perdre la vue lors de son opération. C'est donc un incident chirurgical pour elle en privé, comme l'accident nucléaire frustre Wolf d'une expérience qui serait captable du danger. En parallèle, se multiplient les réflexions sur le langage en tant que tâche aveugle de l'homme, qui reconduit cette image-là scopique tout en posant à nouveau la parole comme défaillance. Et la langue, donc, comme les corps des victimes et les nuages, a été contaminée, corrompue, dans sa structure même, qu'elle soit moléculaire ou syntaxique, par quelque chose d'invisible. Aux réflexions sur l'incapacité de dire se joint donc aussi une description de la voie narrative et de la composition du texte. En effet, la structure d'incident, elle est parcellaire, fractale, disloquée. Le texte, il n'est pas divisé en chapitres. Il s'agit plutôt d'un long monologue, où se succèdent des paragraphes épars, abruptement interrompus par un demi-quadratin qui sectionne alors les phrases en deux. Donc le premier paragraphe du roman a se fendre ainsi par le justement de fission, alors même qu'il fissure la phrase et décompose le texte en particules. À partir d'une conversation téléphonique avec sa fille, la narratrice dira d'ailleurs qu'elles avaient toutes deux peur qu'un mot de trop pût rompre une digue qui devait encore tenir bon. Les petits traits, semble-t-il, représentent ces digues, qui empêche le reste de la phrase d'advenir, mais aussi de déborder, contiennent un possible donc échappement du langage, ce dernier paraissant s'arrêter au seuil de révélation dont il s'approche sans pouvoir les formuler. Les quadratins officient aussi comme des sutures entre les paragraphes. Ce sont par eux qui sont interrompus, mais aussi liés, donc. Le texte semble alors découpé, suturé, composé de membres disparates qui, ensemble, parviennent à faire corps, à devenir discours. Dans une perspective monstrueuse, difficile de ne pas alors penser à Frankenstein et à sa créature. Cette structure textuelle éclatée et dont on peine à garder le contrôle rappelle l'incapacité des dirigeants à gérer correctement le drame de Tchernobyl, mais est aussi susceptible de renvoyer au classique de Mary Shelley dans la mesure où l'homme se trouve impuissant face au danger de la créature qu'il vient de mettre au monde. Cette évocation est inévitablement renforcée par le travail des médecins sur le corps du frère. Par ailleurs, sans qu'on sache bien en quoi consiste son emploi, on comprend par certains commentaires de la narratrice que ce frère travaille dans le milieu de la physique et qu'il n'est pas totalement étranger au projet de Tchernobyl. Il serait par exemple en mesure de traduire les termes techniques utilisés par les physiciens. Il parle donc la langue des monstres et agit pour eux en guise de traducteur. Créature de la marge dont le corps malade puis découpé est monstrueux, le frère appartient aussi à l'univers des monstres parce qu'il peut s'adresser aux scientifiques autant qu'à la sœur, donc il agit comme pont à la manière des monstres que lui montrait Mitsenti. Mais les traits d'union n'apparaissent pas qu'au moment de fracturer des paragraphes, hein, puisqu'ils divisent aussi certains des mots comme « atome » en grec ou « individu » en latin, soit « indivisible ». Selon Wolf, ceux qui ont inventé ces mots ne connaissaient ni la fission nucléaire ni la schizophrénie. La narratrice est investie de la conviction qu'il faut désormais rompre ces mots comme l'a auparavant été ce qu'ils désignent, le sujet, la matière et surtout la conception unitaire que l'homme en avait jusqu'alors. Les dédoublements et les scissions du discours sont alors placés là pour rendre compte de ceux ayant eu lieu dans l'identité du sujet, comme dans sa structure moléculaire. Il faut donc briser la fausse unité de la langue et ses potentialités d'adéquation, comme il faut mettre fin à l'illusion d'un sujet unifié. Il nous dit « je », ce fameux « je » qui, pour les besoins de la réflexion, a tendance à se dissocier du « moi ». Dans le texte de Wolf, c'est bien plus que la centrale nucléaire donc, qui entre en fission en 86, puisque la réaction en chaîne entraîne aussi une corruption du langage. À la manière de Mitsenti, l'auteur rejoue elle aussi l'accident nucléaire en produisant des désordres syntaxiques ou des détraquements orthographiques dans lesquels on peut, sans doute, voir les véritables incidents provoqués et évoqués par le titre. Chez Wolf comme chez Mitsenti, le danger représenté par les radiations ne se situe pas que sur le plan atomique, subatomique et génétique. Il provoque une altération drastique des corps sans pourtant être visible à l'œil nu. Les déraillements de la syntaxe, notamment au niveau des signes de ponctuation, sont révélateurs de ce que j'appelais en introduction une poétique de la radioactivité. En effet, ces auteurs font non seulement preuve de méfiance envers la langue, mais choisissent pour cela d'user son plus petit dénominateur commun, typographique, donc la lettre ou le caractère. Elle mine de l'intérieur cet organisme qu'on appelle le texte et dont elle délie les composantes à la manière de l'uranium. Pour comprendre et pour rendre compte de l'horreur de Tchernobyl, il importerait donc d'altérer la phrase au niveau de sa plus petite unité, de corrompre le texte, la langue, comme la radiation nucléaire corrompt le corps organique des victimes. Il faut distordre la parole munie d'outils discrets, qui soient eux aussi les plus invisibles possibles, œuvrant alors au niveau microscopique tout en produisant des lésions apparentes sur la surface du texte ou du corps, rendant plus laborieuse la lecture de l'un, plus illisible la peau de l'autre. La méfiance envers ce qu'on ne voit pas dans la langue ferait alors écho à la méfiance de ce qu'on ne peut pas percevoir dans l'air qu'on respire. Chez Mitsenti et Wolf, le corps monstrueux, donc, ultimement, est davantage le corps du texte que celui des victimes, et c'est là une des forces de ces étranges romans, aussi hybrides que leurs personnages, puisqu'ils font l'économie d'un traitement misérabiliste ou voyeuriste de la question pour se préoccuper davantage de la poétisation possible d'une figure comme celle-là. Dans le corps, ainsi, le corps du monstre affecte le corps du texte plus qu'il ne rôde, finalement, dans sa diégèse même. Ceci étant dit, il serait faux de penser que cette particularité se limite au récit sur Tchernobyl, puisqu'un type de formalisation semblable peut s'observer dans de multiples fictions portant sur le monstre. Qu'est-ce qui rendrait alors ces textes différents? Qu'est-ce qui ferait leur spécificité par rapport à un corpus de textes sur le monstre qui serait plus général? Encore, quel type de discours Tchernobyl permet-il de tenir sur le monstre? Et inversement, qu'est-ce que la convocation du monstrueux permet de produire comme discours sur la catastrophe? Donc, il faudrait, pour commencer de répondre à ces questions, rappelez d'abord que l'effet des radiations est avant toute chose une affaire de distorsion de l'empreinte génétique qui entraîne une potentielle stérilité. Je ne reviendrai pas trop sur ces détails-là parce qu'ils me semblent bien assez, me semble qu'ils ont été assez bien couverts par Maxime. Mais en effet, si ça ne mène pas toujours à des malformations visibles, on sait désormais que l'ADN, que l'exposition à un certain niveau de radiation est susceptible de modifier les structures de l'ADN. Or, l'ADN étant l'encodage du corps, il constitue en quelque sorte la langue dans laquelle se déchiffre l'identité biologique de quelqu'un. L'écriture, donc, dans laquelle se rédigent les instructions permettant au corps de fonctionner. Ainsi, les radiations, en dégradant le code génétique, altèrent ce discours génératif et génétique du corps, sa syntaxe, et provoquent son dysfonctionnement. Les molécules d'ADN peuvent mourir des suites d'une radiation, tout comme elles peuvent se reconstituer, parfois fautivement, ce qui met en péril les capacités reproductives de l'individu exposé. Et s'il y a donc altération du code génétique par les radiations, il est alors peu étonnant qu'un imaginaire monstrueux de la filiation généalogique soit un enjeu nodal de ces textes qui portent sur Tchernobyl et que cet imaginaire soit modelé par une même poétique de la radioactivité. Je clorerai par conséquent cette réflexion sur une partie où j'aborde la manière dont une telle poétique engage le récit narratif dans une complexification des enjeux de filiation qui n'est pas étrangère à un imaginaire discursif plus généralisé sur la catastrophe de Tchernobyl. Jean-Jacques Defour, je cite encore, nous rappelle que, après tout, que le nucléaire est un monde sans enfants, c'est-à-dire que sa capacité d'autodestruction en fait désormais un legs impossible à empoisonner. Et empoisonner. Le monde tel que transformé par le nucléaire ne peut désormais plus être donné en héritage aux générations futures, autrement qu'à la manière d'un problème reporté. Parlant des centrales comme des enfants chéris des nucléologues, Delfour rappelle aussi que l'Enola Gay, donc l'avion qui a servi à larguer la première bombe atomique, a été nommé ainsi en l'honneur de la mère du pilote. Pour lui, ces métaphores familiales masquent sous l'imagerie d'une sainte famille d'abominables machines de mort. Ils sont des mots écrans d'où découlerait en retour une méfiance du familier, puisque sous les traits du connu et de l'intime se cache désormais le danger possible d'un déraillement pouvant aller jusqu'à l'annihilation. Ainsi, dans les inattendus, ce bouleversement passe souvent par l'inversion. Les petits monstres de l'hôpital sont souvent qualifiés de vieillards, alors que la narratrice réfère régulièrement à sa propre personne en se décrivant comme un fœtus encore à naître, ce qui invertit déjà l'ordre généalogique habituel en subvertissant la chronologie du vivant. Faisant allusion aux secrets familiaux, elle soutient par exemple que « Peu importe qui enfante à qui, nous voilà unis par les liens fraternels de l'hérésie. Je suis aussi le grand frère de mon père. » Or, ce secret hérétique qui parvient à lier entre eux les membres d'une famille est double, puisqu'il englobe à la fois la mort du fils aîné, qu'on suppose déformé par les radiations, mais tout ça restait très estompé, et les crimes collectifs de la nation hongroise durant le 20e siècle, ce qui aussi d'ailleurs sont très périphériques, qui sont abordés de manière très allusive. L'entrée de l'histoire dans le monstrueux, et donc inversement du monstrueux dans l'histoire, bouleverse donc les rapports de filiation, bouscule l'ordre de la narration dans lequel s'inscrit un récit national, faisant déchoir les pères dirigeants, alors infantilisés par le texte. De la même façon, le monstrueux, même intime, oblige une semblable inversion de la chronologie familiale. Alors qu'elle rejette ses propres parents et que les parents de ses patients abandonnent leur rejeton difforme, Clara se rapproche aussi des petits monstres en parlant d'eux comme de ses propres enfants, tissant par là une appartenance en dehors des liens familiaux. La relation avec les monstres est alors une stratégie de fuite hors de la logique mortifère d'une filiation, qui est devenue la véritable source du monstrueux dans sa pulsion itérative et mimétique. Wolf problématise elle aussi cette question, notamment lorsqu'elle fait référence aux scientifiques de la centrale, qui, je la cite, ne connaissent ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni femme, ni enfant, affirmant qu'ils sont plutôt de légitimes descendants du scientifique obsédé par la vérité, des rejetons illégitimes qui se réclament indûment de lui. Les ravages de la science sont alors présentés comme une tare génétique ou un virus que se transmettrait une descendance de scientifiques. Le monstrueux au sens moral produit donc une nouvelle lignée dans laquelle les physiciens soviétiques viennent s'inscrire. La narratrice de Wolf fera montre d'une méfiance répétée envers les œufs que pondent ces poules, qui est un signe de la peur de la contamination des produits alimentaires. Si soupçonner la possible radioactivité donc des produits de consommation courante est un réflexe ordinaire après la catastrophe en Europe de l'Est, il est intéressant que pour cristalliser cette angoisse, Wolf choisisse un œuf qui convoque par là l'enjeu de la fécondité. Simultanément, elle crée en d'autres endroits des parallèles entre le colmatage de l'accident et, je la cite, « les passions qui avaient conduit aux combats acharnés avec le frère, qu'il faut repousser dans ce cratère qui s'est formé en nous de bonne heure et fait office de dernier dépôt de stockage pour sentiments radioactifs insupportables ». C'est donc que la logique de la filiation à l'œuvre dans le texte s'apparente à celle motivant la gestion de la crise nucléaire, ce qui est visiblement pas un effort de valorisation de l'un ou de l'autre de la part de la narratrice. Dans Incident, ce motif de l'animosité fraternelle est récurrent. Il se cristallise dans la figure régulièrement convoquée de Caïn. Or, en plus d'être l'assassin de son frère, Caïn est le premier des agriculteurs. Il constitue donc l'une des références premières et majeures à la culture de la terre qui parsème le texte de Wolf. La journée décrite dans Incident est en effet consacrée en grande partie au jardinage et au déracinement des mauvaises herbes que la narratrice assimile à la fois à la tumeur du frère et à l'effet néfaste des radiations. Je la cite longuement. C'est vraiment une satisfaction indescriptible de saisir de la main droite une touffe d'ortie, de suivre avec l'index gauche les méandres de sa racine sous la terre jusqu'à ce qu'on trouve un point propice à partir duquel on puisse arracher, dans toute sa longueur, avec persévérance et précaution, le vigoureux rhizome, profond et ramifié. Décortiquer jusqu'à sa toute dernière cellule la tumeur qui s'est implantée très, très près de l'hypophyse et l'extirper de son environnement sain. Au lieu de poursuivre cette idée, j'ai préféré me consacrer aux orties. Donc, l'imaginaire botanique permet donc de cristalliser en un seul et même geste, celui du déracinement, les différentes sciences sémantiques du texte. Curieusement, Nitsensi use de stratégies similaires. Clara, par exemple, revient souvent en pensée sur les lieux de son enfance, le verger familial, qu'il faudra vendre ou abandonner faute de descendance. Le déclin du verger, lieu de croissance, renvoie alors à celui de la lignée dont il dépend. Mais contrairement à la relation aux parents, qui se place sous le signe d'une absence de fructification, la mise en relation avec les monstres semble établir, pour la narratrice, un nouvel ordre de filiation. Lorsqu'elle se surprend à faire des grimaces devant le miroir et donc à produire une monstruosité artificielle sur son visage, Clara songe que, je la cite, « Dans ces instants, elle n'est plus une ronce, elle porte aussi des fruits. » Le lexique par lequel s'exprime et surgissent les liens d'appartenance navigue donc constamment autour d'un imaginaire de la croissance ou de l'étiolement végétal. Cette omniprésence d'un imaginaire botanique peut sans doute s'expliquer si on comprend que si on comprend le végétal en tant que vecteur d'un imaginaire plus vaste de la gestation. Celle des bébés monstres, celle du secret, celle des plantes dont, fait bien connu, la croissance explose après l'accident, une idée qui éclaire bien une expression comme arbre généalogique. Hein. Si on est familier avec la question, mais il y a eu vraiment une grande luxuriance de la végétation dans les années qui ont suivi l'explosion de la centrale. L'arbre, donc ses racines secrètes ou leur absence, permet de figurer l'angoisse suscitée par un achèvement de la filiation, une suspicion face à la croissance, qui risque si rapidement, après Tchernobyl, de devenir excroissance monstrueuse. Les deux dangers les plus couramment associés à la radioactivité sont, après tout, l'apparition de cancers et la réduction ou la disparition de la fertilité. C'est pour cette raison que les deux manifestations symptomatiques de l'angoisse produite par Tchernobyl dans le texte passent par l'apparition du thème de la croissance végétale, un imaginaire de la germination est donc ainsi rapatrié dans le texte, et celle du dédoublement, un cancer étant une dysfonction des cellules dont la reproduction, devenue métastasique, est déréglée. Ce motif du double, accolé à celui de la reproduction, souvent la reproduction du même, mériterait qu'on l'observe de plus près puisqu'il advient souvent par le biais d'une angoisse profonde provoquée par l'idée d'une démultiplication, mais aussi par l'évocation d'une séparation, d'une scission plutôt que d'une réplication du sujet. La fausse gémilité présentée par Nitsensi est décrite dans le texte comme une soudure, qui n'est possible qu'avant l'indépendance de la sœur. Le tas familial est par conséquent la genèse de cette soudure dont elle a dit qu'elle s'associe dans ce roman à l'imaginaire du monstre. Les répétitions soutenues sur la suite des pères rappellent aussi la réaction du corps face aux radiations, qui ne sait que reproduire de l'identique, donc des tumeurs. Cette conséquence cancérigène des radiations sur l'organisme et le déversement de cette inquiétude dans la langue dépasse par ailleurs le cadre de ces deux romans. Delfour insiste également à ce sujet. À son avis, la prolifération onomastique, donc le mot pour décrire la radioactivité, semble être un cancer lexical, pour ainsi dire métastasique. Dans l'imaginaire collectif, ce sont les êtres, les éléments radioactifs, qui sont semblables aux tumeurs. Il ira jusqu'à dire que la centrale nucléaire est la sœur jumelle de la bombe atomique. Or, les cauchemars de Clara sont habités précisément par l'antise d'avoir pris la place d'une autre, qui aurait été identique et pourtant différente, une Clara quant à elle légitime, le pendant inaltéré de l'être divisé qu'elle incarne. Wolf fait appel à un imaginaire très semblable en évoquant le conte du petit frère et de la petite sœur. Il s'agit donc des frères, d'un récit des frères Grimm, où deux orphelins échappent à leur marâtre et se réfugient dans une forêt. La soif les tenaille, mais un sort lancé aux rivières fait en sorte que quiconque buvant de cette eau devient une bête. Le jeune frère cède pourtant à la tentation et se transforme en cervidé. Lorsque la marâtre apprend que les enfants ont survécu, elle tue la jeune sœur et la remplace par sa propre fille, physiquement identique, à l'exception de l'un de ses deux yeux. Or, la narratrice de Wolf est tentée par la peur de n'être pas la petite sœur, pardon, mais plutôt son double mauvais, double dont justement l'œil fait défaut, seule trace de la substitution. Or, bon, j'ai déjà insisté sur l'importance de la question du visible et démontré à quel point elle hante ce récit. On pourrait aussi déceler un écho de l'importance de la soif dans le texte de Mitsensi, un écho qui est évidemment fortuit, là. Je produis l'analogie. Qui, parce que donc elle initie la soudure, ça rapporte métonymiquement au monstruel aussi. Dans ce conte, on voit bien que la condamnation du petit frère est une punition pour avoir cédé à la tentation de boire, d'assouvir une soif, peut-être celle de savoir, tentation qui menace de le transformer en une bête fauve. Cette mutation le rapproche du monstre et associe par conséquent, une fois de plus, cette figure au personnage du frère. La menace de la consomption donne également une nouvelle dimension à certains propos de Wolf, comme lorsqu'il dit que, je la cite, « Nous, les hommes, avons sucé le lait, avec le lait cet impérieux besoin de domination et de soumission. » Si cette remarque reconduit le thème important du péché de connaissance, elle le relie aussi à la question de la filiation par analogie au lait, donc à l'allaitement, à la fois nourricier et nocif, pour qui le boit ici. Puisqu'il s'agit de créer des parallèles avec Mitsensi, notons par ailleurs qu'il s'agit, chez Wolf, d'une adresse au frère absent, donc d'un discours monologique, comme celui des monstres et de la narratrice dans Les Inattendus, qui est aussi concerné en filigrane par le problème du frère disparu. Il apparaît vite évident que s'il faut interrompre quelque part le défrichement de ces intrications entre filiation, dédoublement et botanique, ce n'est certainement pas faute de matière à poursuivre. Il faut se contenter ici de signaler qu'elles permettent déjà de mieux comprendre cette fameuse poétique de la radioactivité encore à définir, notamment en répétant l'angoisse générée par la scission, mais aussi en faisant écho à la compulsion de répétition de certains signes de ponctuation. Les motifs de la reproduction et de la disparition, de la coupure et de la soudure, renvoie à l'ambivalence des usages typographiques de Wolf et Mitsensi. Loin d'être un simple actant du texte, le monstre devient un véritable enjeu d'énonciation et prend ses racines thématiques autant au niveau souterrain du texte qu'à leur surface même, se dissimule, se dérobe et s'invisibilise au regard du lecteur à la manière de la radiation, sans pour autant lui faire la grâce de ses effets pernicieux et inquiétants. Il brise la ligne du texte en même temps qu'il rompt la lignée dont parle celui-ci, à moins que ce ne soit la fameuse structure à double hélice qu'il ne fragmente. Parlant d'êtres marginaux, ces textes placent eux-mêmes dans une situation périphérique, excentrée par rapport aux discours qui les ont précédés et à ceux qui les suivront. Or, cette caractéristique fascinante d'une poétique baptisée ici radioactive n'a pas fini d'intriguer puisque dans les deux textes à l'étude, elle se double d'un rapport architectuel au conte. En effet, s'il a été question de la reprise du texte des frères Grimm par Wolf, il faut encore mentionner que chez Mitsensi, le village baptisé Ofer ne renvoie à aucun village existant. Plutôt que d'un toponyme réel, il s'agit du nom que porte le conte de Blanche-Neige en hongrois, un conte contenant lui aussi les motifs de la belle-mère, de la belle-famille néfaste et de l'usurpation. Si cette correspondance ne suffirait pas à fonder peut-être une analyse comparée de Wolf et Mitsensi basée sur la reprise d'un genre, ce curieux choix apparaît comme révélateur du statut que se donne le texte. Le conte, en tant que récit initiatique, sert à indiquer au sujet en phase de transition le rôle qu'il devra désormais occuper dans la lignée, dans la collectivité. Les familiers d'ethnocritiques le savent, le rythme mis en scène par le conte place donc le sujet dans une phase liminaire où il doit abandonner son ancienne position dans la communauté sans être encore agrégé au groupe sous son nouveau statut. À ce titre, le monstre correspond parfaitement à la catégorie du personnage liminaire imaginé par Marie Scarpa. Mais si le monstre est coincé entre deux états, l'un qu'il peine à quitter et l'autre qu'il ne parvient pas à endosser absolument, c'est avant tout le langage qui semble dans ces textes placé dans une délicate situation de liminalité. Si une indétermination de l'identité constitue le caractère spécifique des périodes de marge illustrées au sein du conte, on peut penser que le monstre, mais surtout la parole, et peut-être alors aussi la parole monstrueuse, sont ici captés dans leur traversée d'une telle phase transitoire et comme croqués dans cet état d'indécidabilité où il leur appartient de redéfinir leur virtualité respective. Ce n'est donc plus seulement le protagoniste monstrueux qui se trouve placé en état de marginalité, mais aussi la parole vis-à-vis de sa propre antériorité. On pourrait alors oser aller plus loin, avancer qu'il est possible qu'encore une fois, cet état de fait participe d'une poétique de la radioactivité, en ce qu'elle serait éminemment quantique. La nature du monstre et de la parole y resterait constamment indécidable, labile, dépendant de l'observateur qui souhaite s'adonner à sa scrutation. Si cette investigation reste encore à mener, c'est pour ma part ici que je choisis de refermer, comme la boîte dans laquelle Schrödinger imagine un félin, les livres de Mitsensi et de Wolf, pour m'offrir alors le luxe de l'équivoque et de l'incertitude. Je termine sur ça.